sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme le veut la tradition, les cinq académies qui forment l'Institut de France se réunissent chaque année le mardi le plus proche du 25 octobre, en souvenir de la création de l'Institut, le 25 octobre 1795. À cette occasion, un délégué de chaque académie prononce un discours sur un thème choisi. Cette année 2008, le thème collectivement choisi était l'éducation. Edith Cana de Chizy, de l'Académie des Beaux-Arts, a prononcé un discours intitulé « L'importance de l'enseignement de la musique dans l'éducation », relatant des expériences et des initiatives relatives à l'éducation musicale des jeunes. Grâce à Canal Académie, entrée sous la coupole.
J'ai eu la chance de naître dans une famille de mélomanes avertis et enthousiastes, où l'on pratiquait la musique depuis des générations. Dans ce milieu, le statut de musicien amateur, entre guillemets, était pleinement vécu et tout naturellement assumé. Par contre, celui de musicien professionnel, entre guillemets, n'était pas même envisageable. J'ai ainsi grandi dans l'écoute de la musique, tout d'abord le piano de mes sœurs, puis les grands concerts symphoniques de Lyon où mes parents m'emmenèrent très jeune. Je garde de cette époque le souvenir inoubliable de ma première expérience de musique de chambre. Sachant à peine jouer du violon, on me fit déchiffrer la marche funèbre du quintet de Schumann. J'avais 8 ans et cette musique est restée gravée dans ma mémoire. Par la suite, ayant donc passé du statut d'amateur à celui de professionnel, malgré l'opposition paternelle, ce qui ne fut pas chose facile, l'enseignement prit une place importante dans ma carrière, parallèlement à mes activités de compositeur. L'enseignement du violon, puis la direction de conservatoire. Enfin, actuellement, l'enseignement de la composition au CNR de Paris. Mon goût pour ces activités pédagogiques s'est très certainement enraciné dans cette approche essentiellement sensorielle de la musique qui a marqué mon enfance et que j'ai voulu faire partager aux élèves qui m'ont été confiés. Quand j'observais, par exemple, au conservatoire que je dirigeais alors, que des jeunes se réunissaient spontanément pour faire de la musique, j'avais la satisfaction d'avoir atteint mon but. Car il y a dans l'enseignement musical en France un divorce entre le savoir et la pratique, entre jouer d'un instrument et savoir jouer d'un instrument. Aristote avait déjà noté ce rapport paradoxal et se demandait comment on pouvait apprendre à jouer de la sitar, puisque pour apprendre à jouer de la sitar, il faut jouer de la sitar, et que si l'on joue de la sitar, c'est que l'on sait déjà jouer de la sitar. Cercle vicieux, d'où l'on ne peut sortir que par le courage de faire sans savoir déjà faire. Ce qui a été mon cas dans cette expérience du quintet de Schumann. Tout comme celui qui a appris à nager en équilibre sur un tabouret doit inéluctablement avoir le courage de se jeter à l'eau. Courage, mais aussi confiance en ses propres capacités d'expérimenter. Et surtout, désir. C'est le désir qui pousse un enfant à expérimenter beaucoup plus qu'il ne peut. Comme cette petite palestinienne de Ramallah qui a supplié Daniel Barenboim de lui trouver un professeur. Elle voulait jouer du violon. Barenboim lui a permis d'apprendre. 2 ans après, elle faisait de l'orchestre avant d'entrer dans celui du Daïvan. Ce désir de faire de la musique ne peut venir que d'une expérience première et fondatrice. L'écoute d'un concert, la rencontre d'un musicien, la séduction d'un instrument. Comme le dit ce petit Israélien de 11 ans, né à Nazareth, qui a découvert la musique à la télévision. J'ai commencé tout seul, personne ne m'a poussé. J'avais 5 ans et je me suis dit, je veux étudier le violon. Il fait maintenant partie également du Daïvan Orchestra, dont il est le plus jeune musicien. Tous ceux qui se penchent sur la nécessité d'améliorer l'enseignement musical en France s'accordent à insister sur le développement de la pratique musicale que ce soit celle du chant choral ou celle des pratiques d'ensemble. C'est donc aussi à partir d'initiatives et de réalisations concrètes que nous pourrons mettre en évidence l'incidence de la pratique de la musique sur l'éducation des jeunes. Prenons d'abord l'exemple de cette expérience des orchestres à l'école, initiée par Jean-Claude de Calonne et menée depuis 6 ans au Collège des Explorateurs de Cergy-Pontoise en classe de 3e. L'idée de Jean-Claude de Calonne était simple, former des orchestres à l'école. Des orchestres qui forment les enfants aux instruments de musique. Les instruments, pour la plupart des instruments à vent, car c'est plus facile à aborder, sont prêtés pendant 3 ans. Les élèves choisissent de participer à l'expérience à raison de 3 heures de musique par semaine qui leur apportent les bases de l'alphabet musical et de la technique. Une centaine de classes d'orchestre ont été ainsi lancées en France. Le 19 janvier 2008, la Maison de Radio France a accueilli la première rencontre nationale des orchestres à l'école. Mais il faut savoir que seulement 2% des enfants en France ont accès à la pratique instrumentale à l'école. Voici les témoignages recueillis de cette expérience. Ceux des élèves d'abord, où le mot « plaisir » domine. Le plaisir de jouer, le plaisir de jouer ensemble, le plaisir du concert. Cette expérience leur apporte une bonne image d'eux-mêmes, leur apprend à écouter les autres, leur donne tout simplement l'amour de la musique. Le témoignage des professeurs insiste sur le fait que les élèves changent. Ils font d'énormes progrès dans d'autres domaines, notamment dans celui de la rapidité de la lecture, qui est en lien direct avec la rapidité requise pour suivre sa partition. Ils s'investissent davantage. Leur attention et leur concentration sont plus développées. Il n'y a plus de problème de discipline dans ces classes, ni de violence. Il faut dire au passage que l'expérience de l'orchestre est à ce point de vue radicale. Le chahut y est absolument impossible. Autre exemple, celui-ci dans le domaine de la pratique du chant choral. La création, dans les quartiers nord de Bondy, en Seine-Saint-Denis, d'une annexe de la maîtrise de Radio France, dirigée par Morgane Jourdain. À l'origine de ce projet, Tony Ramone, que je connaissais bien, chef de la maîtrise de Radio France depuis 1998, mort d'un cancer à 41 ans le 3 septembre 2007. L'école flambant neuve Olympe de Gouges ouvrit le 19 septembre avec le premier groupe d'enfants, 15 jours après sa disparition. Sélectionnés parmi 135 volontaires, 23 élèves de CE1 furent retenus, 8 garçons et 15 filles de 7 et 8 ans, d'une douzaine d'origines différentes. Les critères de cette sélection sont prioritairement l'envie de chanter, dont Morgane Jourdain veut qu'elle devienne un besoin physique, avant de penser à la discipline du travail musical, et aussi les capacités d'attention et de mémorisation, ainsi qu'une certaine prestance. À terme, soit à la rentrée 2010, cette maîtrise sera riche de 60 élèves répartis sur 4 niveaux, du CE1 au CM2. Ces enfants reçoivent sur le temps scolaire des cours de chant choral, formation musicale, technique vocale et piano à raison de 7 à 8 heures par semaine. Les témoignages des professeurs sont là aussi éloquents. Ils sont épatés par le développement des capacités de mémorisation des enfants. Une Sri Lankaise arrivée en 2006 en France était en échec scolaire, n'étant pas francophone, et devait être maintenue en CP. Son institutrice déclare: elle a appris la syntaxe en chantant. Même si elle a encore un déficit de vocabulaire, ce n'est plus une élève en difficulté. Nous allons aborder maintenant un autre aspect de la puissante influence que peut avoir la pratique de la musique sur le devenir des jeunes. Je veux parler de deux exemples aussi poignants que magnifiques. Celui de l'Orchestre des Jeunes du Venezuela, appelé aussi Orchestre Philharmonique Simon Bolivar, et celui de l'Orchestre du Divan, fondé par Daniel Barenboim, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Je dois ajouter que j'ai regardé moi-même avec grand intérêt pratiquement tous les reportages télévisés récemment diffusés concernant les sujets ici traités, car c'est un sujet de grande actualité, et c'est pourquoi je peux en parler en pleine connaissance, mais surtout avec une grande émotion. L'Orchestre des Jeunes du Venezuela a été fondé en 1975 par José Antonio Abreu, qui eut l'idée d'apprendre la musique aux enfants des rues pour les sauver de la misère. Dans les bidonvilles de Caracas, un tiers de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et les enfants grandissent dans un environnement dominé par la violence, la drogue et l'absence de perspectives d'avenir. Au Venezuela, 30% de la population a moins de 15 ans. Cet orchestre est aujourd'hui devenu la fondation d'État pour le système national d'orchestre pour les enfants et les jeunes du Venezuela. Fondation appelée de façon plus brève le Sistema. Et grâce à cette initiative, le Venezuela dispose d'un incroyable réseau musical. Environ 120 orchestres de jeunes, 60 orchestres d'enfants et plusieurs chorales réunissant plus de 110 000 membres. Les instruments sont prêtés, l'enseignement gratuit, à raison de 2 ou 3 heures par semaine. En 1998, l'UNESCO nomme les jeunes membres de l'orchestre ambassadeurs et artistes de la paix, porteurs d'un important message d'espoir. En 2001, José Antonio Abreu a reçu la récompense du Right Livelihood pour sa volonté d'imposer la musique classique comme facteur de progrès social. En recevant son prix à Stockholm, il a déclaré « Un orchestre est bien plus qu'une structure artistique. Pour les musiciens, il s'agit de collaboration, de discipline commune et d'une expérience de vie en communauté. Ces enfants ne feront jamais la guerre. » L'Orchestre philharmonique Simon Bolivar, au sommet de cette formidable pyramide, fait maintenant des tournées mondiales. Il s'est tout dernièrement produit à Salzbourg le 22 septembre dernier, sous la direction d'un jeune chef de 27 ans, Gustavo Dudamel, formé par José Antonio Abreu. Il a été à 25 ans nommé chef principal de l'orchestre de Göteborg en Suède et récemment choisi pour diriger l'orchestre philharmonique de Los Angeles. « La musique a changé ma vie, dit-il. Lorsque je regarde ce que sont devenus les garçons de mon âge, je constate que beaucoup ont sombré dans la drogue et le crime, mais pas ceux qui faisaient de la musique. » Et il ajoute, « Quand un enfant a un instrument de musique dans les mains, il change radicalement. » Le projet du West Eastern Divan Orchestra, fondé par Daniel Barenboim, est né en 1999 à Weimar, avec son ami, l'écrivain palestinien Edward Said, et porte le nom d'un texte de Goethe inspiré par la culture arabe. Il est formé d'Israéliens, de Palestiniens, des Palestiniens d'Israël, des territoires occupés et de l'étranger, de Libanais, de Syriens, de Jordaniens, de Turcs, d'Iraniens, ainsi que d'Égyptiens, 120 jeunes âgés de 11 à 28 ans. Depuis 2002, il réside chaque été à Séville en Espagne, qui a connu 7 siècles de vie pacifique entre juifs et musulmans. Le gouvernement andalou a créé en 2004 la Fondation Barenboim Saïd, qui permet entre autres d'accorder des bourses aux musiciens pour continuer leurs études. En 2005, Daniel Barenboim a réussi à faire jouer cet orchestre à Ramallah, en Cisjordanie. Voici ce qu'il en dit. Le voyage à Ramallah a mis l'orchestre à rude épreuve. Certains jeunes n'étaient jamais allés en Palestine. En outre, la loi israélienne interdit aux Israéliens d'entrer en territoire palestinien. La Syrie et le Liban interdisent à leurs ressortissants de traverser le territoire israélien, ce qui est impensable pour parvenir à Ramallah. En fin de compte, la décision d'aller à Ramallah touchait au cœur du conflit israélo-palestinien. Des passeports diplomatiques furent enfin donnés par le gouvernement espagnol à tous les enfants, à tous les musiciens. Une jeune Israélienne, à l'issue du concert, témoignait « Je ne pensais pas qu'on y arriverait, je ne pensais pas que c'était si facile. » Daniel Barenboim refuse de dire du Divan Orchestra qu'il est un orchestre pour la paix. « Au contraire, dit-il, nous essayons de vivre avec nos dissemblances, en acceptant la légitimité du point de vue de l'autre. Bon nombre des membres du Divan Orchestra découvrent la douleur du récit de l'autre partie pour la première fois à l'occasion de ce stage. C'est un choc qui oblige à penser. La musique nous enseigne qu'il n'existe rien qui ne contienne son parallèle ou son contraire. Même si elle est incapable de régler le moindre problème, elle peut nous apprendre à réfléchir. C'est une école de vie. Comme le disait encore Aristote, rien n'est plus puissant que les rythmes et les chants de la musique pour imiter aussi réellement que possible la colère, la bonté, le courage, la sagesse même, et aussi tous les sentiments opposés à ceux-là. La musique désamorce la violence. Si je n'avais pas rencontré la musique à l'âge de 17 ans, j'aurais pu être une bombe suicide, confesse Ramzi, palestinien, musicien de l'orchestre. Le Divan Orchestra s'est produit salle Pleyel le 25 août dernier. Ce soir-là, Daniel Barenboim a pris la parole en disant « Ce qui est possible à Paris et dans la plupart des grandes capitales européennes, il faut que ce le soit aussi dans tous les pays dont sont issus ces jeunes gens. » Il a quitté la scène en lançant cet appel « Aidez-nous ». Nous ne pouvons qu'atténuer la haine, disait le violoncelliste catalan Pablo Casals, exilé à Prades durant la guerre d'Espagne et qui s'est dépensé sans compter auprès des réfugiés espagnols. Nous ne pouvons qu'atténuer la haine. Cette expérience n'amènera pas la paix, mais peut ouvrir une troisième voie, celle d'apprendre à vivre en respectant la légitimité de l'autre. Puissent ces jeunes musiciens apporter au monde d'aujourd'hui de nouvelles ouvertures. La musique éveille le temps. Tel est le titre du livre que Daniel Barenboim vient de publier. Éveil des sens et de l'esprit. Éveil des consciences. Éveil à un autre humanisme. Celui que Beethoven a passionnément tenté d'évoquer en écrivant l'hymne à la joie.
Canal Académie vous invite à écouter l'intégralité des discours tenus sur le thème de l'éducation. À l'occasion de cette rentrée solennelle de 2008, retrouvez les discours de Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques, de Franciscus Verhelen de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de Pierre Léna de l'Académie des sciences et enfin de Jacqueline de Romilly de l'Académie française.